ils entrèrent dans le salon mansardé avec le vasistas au plafond. Alberto avait changé quelques objets de place depuis la dernière fois. Il y avait sur la table un vieil écrin contenant toute une collection de verres optiques. À côté était posé un livre ouvert. Il paraissait très ancien. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sophie. « C'est la première édition du célèbre livre de Descartes, Le discours de la méthode. Il date de 1637, et c'est une des choses que je possède auxquelles je tiens le plus. » « Et l'écrin ?» contient une collection unique de lentilles, c'est-à-dire de verres optiques. Ceux-ci furent taillés au XVIIe siècle par le philosophe hollandais Spinoza. Ils m'ont coûté une petite fortune, et j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Je comprendrais mieux pourquoi tu tiens tant à ton livre et à tes verres, si seulement je savais qui sont ce Descartes et ce Spinoza dont tu me parles. Naturellement. Mais d'abord, essayons de nous transporter un peu à l'époque à laquelle il vivait. Asseyons-nous ici. Comme la dernière fois, Sophie s'assit dans un bon vieux fauteuil et Alberto Knox dans le canapé. Entre eux se trouvait la table avec le livre et l'écrin. En s'asseyant, Alberto ôta sa perruque et la posa sur le secrétaire. Nous allons donc parler du XVIIe siècle, qu'on appelle aussi l'époque baroque. L'époque baroque ? Quel drôle de nom ! Le terme « baroque » vient d'un mot portugais qui signifie « une perle irrégulière ». L'art du baroque se caractérise en effet par des formes très contrastées en opposition à l'art de la Renaissance qui prenait la simplicité et l'harmonie. Nous retrouvons la glorification de la vie comme sous la Renaissance. Mais nous tombons aussi dans l'autre extrême avec la négation de la vie et le renoncement au monde. Que ce soit dans l'art ou la vie réelle, la vie s'épanouit avec un faste sans précédent, alors que dans le même temps, les monastères incitent à se retirer du monde. En résumé, de fiers châteaux et des monastères cachés. En gros, c'est ça. Une des devises du baroque était l'expression latine « carpe diem », qui signifie « cueille le jour ». Il est également une autre expression latine qui revenait souvent, « memento mori », ce qui signifie « rappelle-toi que tu mourras un jour ». Dans la peinture, c'est particulièrement clair, puisque le même tableau peut montrer une débauche de forme de vie avec un squelette tout en bas, dans un coin. À maints égards, le baroque était caractérisé par la vanité ou la fatuité. Mais parallèlement, beaucoup étaient obsédés par le caractère éphémère de la vie. C'est-à-dire que toute la beauté qui nous entoure est condamnée à disparaître un jour. Mais c'est vrai, je trouve que c'est triste de penser que rien ne dure éternellement. Là, tu penses exactement comme les hommes du XVIIe siècle. Sur le plan politique aussi, le baroque fut une époque de grands conflits. L'Europe était déchirée par des guerres, dont la plus meurtrière fut la guerre de 30 ans qui dévasta des régions entières de 1618 à 1648. Ce terme recouvre en fait plusieurs guerres qui firent surtout ravage en Allemagne. Une des conséquences de cette guerre interminable fut que la France devint la première puissance européenne. Pourquoi y avait-il la guerre? Il s'agissait avant tout d'un conflit entre les protestants et les catholiques. Mais il y avait, bien entendu, un arrière-plan politique. Comme au Liban, quoi. Au XVIIe siècle, les différences de classe étaient très importantes. Tu as sans aucun doute entendu parler de la noblesse française et de la cour à Versailles. Mais je ne suis pas si sûr que tu en saches autant sur la pauvreté du peuple à la même époque. Qui dit déploiement de magnificence dit aussi déploiement de pouvoir. Il suffit de penser à l'art et à l'architecture baroque. Les monuments sont comme emberlificotés avec toutes sortes d'angles et de recoins, à l'image de la politique où régnaient en maître les assassinats, les intrigues et les coups fourrés. Est-ce qu'il n'y a pas eu un roi suédois qui a été abattu dans un théâtre? Tu penses à Gustave III, et cela illustre bien ce que je viens de dire. Gustave III fut assassiné en 1792. Mais les circonstances de sa mort sont représentatives du baroque, puisqu'il fut tué lors d'un grand bal masqué. Je croyais que c'était dans un théâtre. Ce grand bal masqué eut lieu à l'opéra, et le meurtre du roi marqua la fin du baroque en Suède, car il avait été, comme Louis XIV, un siècle plus tôt, un despote éclairé. Mais c'était un homme très vaniteux qui raffolait de tout le cérémonial et des courbettes à la française. Ce n'est donc pas un hasard s'il avait une passion pour le théâtre. Et il en est mort. Mais le théâtre, à l'époque baroque, ne se limitait pas à un simple mode d'expression artistique. C'était tout un symbole. Un symbole de quoi ? De la vie, Sophie. Au XVIIe siècle, on ne cessait de répéter que « la vie est un théâtre ». C'est à l'époque baroque qu'on créa le théâtre moderne, avec ses coulisses et sa machinerie. On construisait de toutes pièces une illusion sur la scène pour mieux la mettre ensuite à nu. Le théâtre devint l'image de toute la vie humaine. Le théâtre pouvait montrer que l'orgueil se retourne contre son héros et donner une image impitoyable de la condition misérable de l'homme. Est-ce que Shakespeare vivait à l'époque baroque ? Oui. Il écrivit ses plus grands drames autour de 1600. Il est en fait à cheval entre la Renaissance et le baroque. L'idée que la vie est un théâtre se retrouve dans toute son œuvre. Tu en veux quelques exemples ? Volontiers. Dans la comédie « As you like it », comme il vous plaira, il écrit « Le monde entier est une scène. Hommes et femmes, tous, n'y sont que des acteurs. Chacun fait ses entrées, chacun fait ses sorties, et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles. » Et dans Macbeth, « La vie n'est qu'une ombre qui passe, un pauvre acteur qui s'agite et parade d'une heure sur la scène, puis on ne l'entend plus. C'est un récit plein de bruit, de fureur, qu'un idiot raconte et qui n'a pas de sens. » C'était plutôt pessimiste. Il était trop conscient que la vie est courte. Tu connais bien sûr la plus célèbre phrase de Shakespeare. « To be or not to be, that is the question. » Oui, c'est Hamlet qui dit ça. Aujourd'hui, nous sommes sur Terre. Demain, nous ne serons plus là. Merci, mais tu sais, j'avais compris. Quand il ne comparait pas la vie à un théâtre, les poètes baroques la comparaient à un rêve. Shakespeare déjà écrivait « Nous sommes de l'étoffe dont les rêves sont faits, et notre petite vie est entourée de sommeil. » C'est poétique. Le poète espagnol Calderón de la Barca, qui naquit en 1600, a écrit une pièce intitulée « La vie est un songe », où il dit « Qu'est-ce que la vie ? Une folie. Qu'est-ce que la vie ? Une illusion, une ombre, une fiction. » Et le bien suprême a peu de valeur, car la vie tout entière n'est qu'un rêve. Peut-être qu'il a raison. Nous avons étudié une pièce à l'école, « Yépé sur la montagne ». De Ludwig Holberg, oui, je connais. En Scandinavie, il est une grande figure de la littérature, à cheval entre le baroque et le siècle des Lumières. Yépé s'endort dans une grotte et se réveille dans le lit du baron. Il s'imagine alors qu'il a seulement rêvé, qu'il était un pauvre paysan vagabond. On le transporte endormi dans sa grotte et il se réveille à nouveau. Et là, il croit qu'il a rêvé avoir dormi dans le lit du baron. Ce thème, Holberg l'avait emprunté à Calderón, qui lui-même l'aurait trouvé dans le vieux conte arabe des Mille et une nuits. Mais déjà bien avant, on trouvait en Inde et en Chine cette comparaison entre la vie et le rêve. Citons par exemple le vieux sage chinois Chuang Tzu, environ 350 avant Jésus-Christ. Un jour, j'ai rêvé que j'étais un papillon. Et à présent, je ne sais plus si je suis Chuang Tzu qui a rêvé qu'il était un papillon, ou bien si je suis un papillon qui rêve que je suis Chuang Tzu. Mais c'est impossible à savoir. En Norvège, nous avons eu un poète typiquement baroque qui s'appelait Peter Dass. Il vécut de 1647 à 1707. D'un côté, il décrivait la vie quotidienne à son époque, de l'autre, il soulignait que seul Dieu existait et était éternel. Ah oui, Dieu est Dieu même si la terre était un désert, Dieu est Dieu même si tous les hommes étaient morts. Mais dans la même strophe, il décrit aussi le paysage au nord de la Norvège. Il parle du bar, du colin, du cabillaud et de la morue. On reconnaît dans ce mélange de considérations terrestres et spirituelles un trait caractéristique du baroque, qui n'est pas sans rappeler la distinction qu'établit Platon entre le monde des sens, bien concret, et le monde des idées, immuable et éternel. Et qu'en est-il de la philosophie ? Elle aussi fut marquée par de grands conflits entre différents modes de pensée. Nous avons déjà vu que certains considéraient l'être comme étant de nature psychique ou spirituelle. Ce point de vue a pour nom l'idéalisme et s'oppose au matérialisme, qui ramène tous les phénomènes de l'existence à des causes matérielles. Au XVIIe siècle, le matérialisme avait déjà ses fervents représentants. Le plus influent fut sans doute le philosophe anglais Thomas Hobbes, selon lequel tous les phénomènes, ainsi que les hommes ou les animaux, étaient constitués exclusivement de particules de matière. Même la conscience de l'homme, ou l'âme de l'homme, était due au mouvement de minuscules particules dans le cerveau. Il ne dit pas autre chose que Démocrite, 2000 ans plus tôt. On retrouve l'idéalisme et le matérialisme à travers toute l'histoire de la philosophie. Mais on a rarement vu ces deux conceptions coexister comme à l'époque baroque. Le matérialisme fut constamment entretenu par la science nouvelle. Newton avait expliqué que les mêmes lois physiques, comme la pesanteur et le mouvement des corps, s'appliquaient en tout point de l'univers. Le monde entier est régi par la même mécanique qui obéit à des principes inviolables. Newton a donné la dernière touche à ce que l'on appelle l'image mécanique du monde. Il se représentait le monde comme une grosse machine ? Parfaitement. Le terme « mécanique » vient du grec « marana », qui signifie « machine ». Mais il convient de faire remarquer que ni Hobbes ni Newton ne voyaient de contradiction entre l'image mécanique du monde et leur foi en Dieu. Cela est vrai pour tous les matérialistes des XVIIe et XVIIIe siècles. Le médecin et philosophe français Lemaître écrivit vers le milieu du XVIIIe un livre intitulé « L'homme-machine », où il dit que tout comme la jambe possède des muscles pour marcher, le cerveau a des muscles pour penser. Le mathématicien français Laplace alla encore plus loin. Si une intelligence avait connu la situation de toutes les particules de matière à un moment donné, rien ne serait incertain et le passé comme l'avenir s'offrirait à ses yeux. L'idée est que tout ce qui se passe est décidé à l'avance. Les jeux sont faits. Cette conception du monde s'appelle le déterminisme. Alors, la libre volonté de l'homme n'est qu'un leurre ? Oui, tout n'est que le résultat de processus mécaniques, même nos pensées et nos rêves. Au XIXe siècle, des matérialistes allemands allèrent jusqu'à dire que les processus de la pensée se comportaient vis-à-vis du cerveau comme l'urine vis-à-vis des reins et la bile vis-à-vis du foie. Mais l'urine et la bile sont des matières, pas les pensées. Tu touches du doigt quelque chose d'essentiel. Je vais te raconter une histoire qui dit la même chose. Il était une fois un astronaute russe et un spécialiste russe du cerveau qui discutaient à propos de la religion. Ce dernier était chrétien, mais pas l'astronaute. « Je suis allé plusieurs fois dans l'espace », se vanta l'astronaute. « Mais je n'ai jamais rencontré Dieu ou les anges. »« Quant à moi, » répondit le spécialiste du cerveau, « j'ai souvent opéré des cerveaux intelligents, mais je n'ai jamais vu une seule pensée. » »« Ce qui ne veut pas dire que les pensées n'existent pas. » »« En effet, cela montre que les pensées ne peuvent pas être disséquées ou divisées en des parties de plus en plus petites. Il n'est pas facile, par exemple, de chasser une idée fausse, car elle est souvent profondément ancrée en notre esprit. Un grand philosophe du XVIIe, du nom de Leibniz, fit remarquer que c'est bien là que se joue la différence entre la matière et l'esprit. Le matériel peut se décomposer à l'infini, alors qu'on ne peut couper une âme en deux. Effectivement, on se demande bien avec quel couteau. Alberto se contenta de secouer la tête. Les deux plus grands philosophes du XVIIe siècle étaient Descartes et Spinoza. Eux aussi s'attachèrent à définir les rapports entre l'âme et le corps et méritent d'être étudiés plus précisément. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Il faudra juste que tu me laisses téléphoner si on n'a pas fini pour cette heure.